Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, ravi de vous retrouver. L'antenne vous appartient dans un instant. Ce sont vos questions à la rédaction d'RFI. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes, nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. C'est l'occasion de nous poser toutes vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Il vous manque des repères, des clés peut-être pour mieux comprendre, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Vous nous appelez et surtout n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de Paris et vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur le climat politique au Gabon et ce à 3 mois maintenant de l'élection présidentielle. Ces dernières semaines, plusieurs barons du régime ont claqué la porte du parti au pouvoir. Certains ont même créé leur propre formation politique. De son côté, l'opposition accuse le président sortant Ali Bongo Ondimba d'avoir falsifié son acte de naissance, d'avoir menti finalement sur sa nationalité gabonaise. D'ailleurs, une partie des opposants envisage de saisir le Parlement pour demander la destitution du chef de l'État. Et c'est dans ce contexte que le médiateur de la République a pris la parole. Médiateur qui a dressé un constat inquiétant de la situation politique et sociale. La haine de l'autre a remplacé le débat démocratique et d'appeler tous les acteurs à préserver la paix. Alors que vous inspire ce climat politique? Vous êtes nombreux au standard. Plusieurs réactions également déjà sur les réseaux sociaux. J'en lirai quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Allez, la première question ce matin nous vient de Gao au Mali. Bonjour Abdoul.
Bonjour, monsieur Juan.
Alors, vous avez des questions concernant votre pays et principalement les récentes violences communautaires dans la région de Mopti.
Exactement. Dans le nord du Mali, il y a eu des violents affrontements entre le communauté Peul et le communauté Bambara. J'ai des questions à vous poser, monsieur Juan.
Oui.
Quelle est l'origine de ce conflit? La deuxième question, que fait le gouvernement pour calmer les tensions?
D'autant que ces affrontements intercommunautaires ont fait une trentaine de morts et provoqué des déplacements de population. Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour.
Vous êtes le correspondant des RFI au Mali. On sait que les rivalités entre les Peuls et les Bambara sont récurrentes. Ils se disputent parfois l'accès aux réserves naturelles. Pour autant, comment expliquer la violence de ces récents affrontements?
Alors, aujourd'hui, ce qui empoisonne les relations entre les membres de ces deux communautés, c'est le contexte sécuritaire régional. Alors, vous savez que dans cette région de Mopti, qui s'étend sur près de 80 000 km², il y a des djihadistes. Et parmi les djihadistes, certains sont Peuls. Et l'amalgame est très très vite fait. Il y a quelques semaines, dans ce village malien du nom de Korogiri, vous avez deux jeunes Peuls, probablement soupçonnés d'être des djihadistes, qui ont été tués par des chasseurs traditionnels lourdement armés. Revanche des Peuls, et puis une nouvelle attaque meurtrière des chasseurs traditionnels lourdement armés, et les Peuls enterraient leurs morts lorsque les mêmes chasseurs traditionnels armés arrivent dans le cimetière et ouvrent le feu. Il y a eu de nombreuses victimes, des morts, vous avez parlé d'une trentaine, d'autres parlent de plusieurs dizaines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le conflit aujourd'hui est meurtrier parce que les chasseurs traditionnels Bambara sont lourdement armés. Ils ont été armés par le gouvernement pour combattre les djihadistes, soupçonnent certains. Le gouvernement malien, de son côté, dément formellement. Entre-temps, de nombreux civils Peuls ont fui la zone par crainte de représailles.
Alors, on dit effectivement qu'il y a cet amalgame entre les Peuls et les djihadistes, d'autant que le Front de Libération du Massina est dirigé justement par un prédicateur malien Peul, ce qui suscite effectivement la confusion au sein d'une partie de la population sur place.
Oui, tout à fait, mais cela ne veut pas dire que, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est Peul est djihadiste.
Bien sûr.
Dans cette zone, vous avez effectivement déjà à l'époque de la rébellion, lorsque les islamistes ont pris le contrôle du nord du Mali, Yadar Ali, qui est un leader de cette prise du nord du Mali, il a créé un mouvement qui s'appelle En Sardine. Et au centre, il a eu un allié de taille qui s'appelle Amadou Koufa, qui est ce prédicateur radical. Donc il a recruté des jeunes originaires de la région, notamment des Peuls, pour venir attaquer, vous vous souvenez, la ville de Kona, située dans la région de Mopti, ce qui a déclenché l'intervention française. Après cette intervention, il y a des jeunes qui se sont regroupés en mouvements radicaux, et ceux-là, ils font du tort aux autres parce qu'on considère tous les autres, quasiment tous les autres, comme des islamistes, ouais. Ce qui n'est pas du tout vrai. Il y a des jeunes peuls dans la région qui sont contre l'islamisme, il y a certains qui sont en train de mener des opérations aujourd'hui pour sortir des rangs des islamistes des peuls et ensuite les déradicaliser. Donc alors, il y a un amalgame, effectivement.
Effectivement, et c'est important de le préciser. Abdoul nous demandait que fait le gouvernement pour calmer ces tensions. Une mission gouvernementale s'est rendue dans la région de Mopti.
Ah oui, il y a eu d'incessants va-et-vient dans la région d'élus, de membres du gouvernement, notamment le ministre malien de la Réconciliation, celui de la Réforme de l'État, de la Défense aussi. L'objectif est de réconcilier les belligérants. Alors, il est également question d'envoyer sur place des forces pour calmer le jeu. Et la mission de l'ONU au Mali, il faut le dire, entend protéger les civils sur place. Un calme précaire règne sur place. Des villages sont toujours désertés, cela dit. Ce que les habitants attendent Ouane aujourd'hui, c'est l'arrestation des meurtriers qui sont connus. C'est également le désarmement de cette milice qui sème la terreur. Et puis pour terminer, en principe, du 20 au 22 mai prochain, il y aura un forum de réconciliation nationale, en principe dans la zone, encouragé par le gouvernement, par des élus, pour tenter de sceller une nouvelle paix entre communauté Peul et communauté Bambara, qui ont toujours coexisté dans cette zone, généralement pacifiquement, avec quelques problèmes. Mais cette fois-ci, la tension demeure vive, il faut le souligner.
Oui, les problèmes dont vous faites référence, ce sont les uns qui revendiquent des pâturages, les autres qui défendent leurs terres, puisque les Peuls sont éleveurs et les Bambara agriculteurs. Abdoul, on a répondu à vos questions ?
Oui, parfaitement. Merci beaucoup.
Eh bien, merci surtout à Serge Daniel qui était en direct avec nous depuis Bamako. Serge Daniel, correspondant des RFI au Mali. 33 9 693 693 70. Muntaga, bonjour.
Bonjour, monsieur Wan.
Vous nous appelez de Dakar. Vous êtes au Sénégal et vous avez des questions sur la Mauritanie.
Bien sûr. Au fait, tout récemment, le président mauritanien a annoncé un référendum constitutionnel pour supprimer le Sénat. Sur ce, j'ai deux sujets, j'ai deux questions à vous poser.
Oui.
La première, pourquoi vouloir supprimer le Sénat? La deuxième question, je vais réfléchir par rapport
d'accord.
à ça.
D'accord. Ne vous inquiétez pas. Je sais que ce n'est pas facile de prendre la parole, de s'exprimer en direct à la radio. Pas de panique. On est entre nous, Muntaga. Laura Martel, journaliste au service Afrique des RFI, est à mes côtés. Bonjour, Laura.
Bonjour.
Alors, effectivement, il y a eu cette annonce au début du mois du président Mohamed Ould Abdelaziz. Il veut supprimer le Sénat. D'ailleurs, cette révision constitutionnelle est loin de faire l'unanimité. L'opposition a revendiqué samedi plusieurs milliers de personnes dans les rues de Nouakchott pour dire non au projet de révision constitutionnelle. Pourquoi vouloir supprimer le Sénat?
Alors, vous le disiez, c'est lors d'un meeting à Nema le 3 mai que le président a annoncé qu'il allait mettre en place un nouveau dialogue et que dans ce cadre, il proposerait un référendum constitutionnel avec notamment cette question de la suppression du Sénat. Le président a avancé deux arguments principaux. D'abord, que la présence de ce Sénat ralentit le processus législatif puisque les textes doivent d'abord passer devant l'Assemblée puis devant le Sénat. Et puis surtout, le coût du Sénat. Selon le parti au pouvoir, en 2015, le Sénat aurait coûté 6 milliards d'ouguilla à la Mauritanie, c'est 17 millions d'euros, ce qui est effectivement assez important si ces chiffres sont avérés. Alors ce débat sur la réforme du Sénat n'est pas nouveau en Mauritanie, mais il arrive, Juan, en fait, à un moment où la Chambre haute est en crise. Il faut savoir que la cinquantaine de membres de ce Sénat a dépassé la durée de son mandat. Les dernières élections sénatoriales datent de 2010, alors que la loi prévoit normalement un renouvellement par tiers tous les 3 ans. Alors, le pouvoir a d'abord essayé, en début d'année, de remédier à cette obsolescence du Sénat par la voie législative. En janvier, il a déposé un projet de loi à l'Assemblée qui prévoyait un retour à la normale d'ici 2022 grâce à des renouvellements partiels. Mais en fait, ce projet de loi qui avait été adopté par l'Assemblée a été retoqué en février par le Conseil constitutionnel qui a réclamé que le renouvellement de ce Sénat soit complet.
Ce qui est surprenant, Laura Martel, c'est que l'opposition dénonce ce projet de révision constitutionnelle, alors que si ma mémoire est bonne, l'opposition réclamait la suppression du Sénat.
Oui, alors c'est effectivement, cette suppression était une des revendications de l'opposition depuis plusieurs années. Mais en fait, ce qui gêne l'opposition, c'est que pour eux, cette idée de suppression du Sénat n'est que de la poudre aux yeux. Ce qu'ils pensent, c'est que derrière ce projet de révision constitutionnelle, il y aurait une volonté en fait du président Abdelaziz de se maintenir au pouvoir et donc à travers de cette réforme constitutionnelle visant le Sénat, soit de faire sauter la limitation des deux mandats, soit changer le régime carrément mauritanien, passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire pour un scénario un peu à la Poutine-Medvedev
comme en Russie.
Voilà. Ouais. Donc c'est ce que craint l'opposition et ce que souligne aussi l'opposition, évidemment, c'est que le président propose à nouveau un dialogue. Or, on sait, Rouen, qu'en Mauritanie, depuis 2009, le dialogue politique entre le pouvoir et toute l'opposition est au point mort. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont régulièrement échoué. Et là encore, l'opposition dénonce un agenda unilatéral qui serait mis en place par le président et dit que les conditions, pour le moment, ne sont pas réunies pour aller à un tel dialogue. Et l'opposition, donc, voit une malveillance et une volonté de se maintenir au pouvoir du président Ould Abdelaziz, une volonté qui a été démentie encore ce matin sur notre antenne par le porte-parole du parti au pouvoir qui dit que le président ne veut ni prolonger la durée de son mandat, ni changer le régime mauritanien.
On aura l'occasion certainement d'en débattre avec les auditeurs prochainement. En tout cas, le président de la République a donné 3 semaines à l'opposition pour participer à cet éventuel dialogue. Muntaga, vous êtes toujours en ligne, vous avez une autre question.
Oui, au fait, la deuxième question, c'est quel peut être l'impact de la suppression du Sénat pour le pays?
Ah, ça va changer quoi concrètement, Laura Martel?
Écoutez, c'est difficile de voir exactement. Mais ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que plusieurs pays n'ont pas de Sénat. Le bicamérisme n'est pas obligatoire à un fonctionnement législatif normal, comme par exemple en Afrique, la Guinée ou l'Ouganda, qui n'ont pas de Sénat. Et puis, alors le président propose en revanche la création de conseils régionaux pour pallier donc à cette suppression du Sénat. Pour lui, ça permet notamment une meilleure représentation locale et aussi un meilleur développement du pays. À savoir que l'opposition, elle, craint un retour en force, dit-elle, du régionalisme et du tribalisme à travers ces conseils régionaux. Donc, on verra si ce dialogue a lieu et on verra si le Sénat donc est supprimé.
À suivre donc. Merci beaucoup Laura Martel et bonne journée à Muntaga qui nous appelait de Dakar au Sénégal où il est 8h23. Jean-Marc Sen est à mes côtés. Bonjour Jean-Marc Sen.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Les auditeurs d'RFI vous connaissent bien puisqu'on vous retrouve régulièrement dans l'émission Priorité Santé pour la chronique sport. Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. On vous a demandé de venir ce matin. Bon, il se trouve que vous serez tout à l'heure dans Priorité Santé au micro de Thomas Chauvineau qui remplace Claire Hédon cette semaine. Mais on vous a demandé de venir ce matin puisqu'on a reçu des questions après la mort de Patrick Ekang, le footballeur camerounais décédé vendredi dernier à Bucarest après un malaise lors d'un match du championnat de Roumanie. Et Boris, justement, souhaitait vous poser une question. Boris est au Cameroun. Bonjour.
Bonjour, monsieur Juan.
Nous vous écoutons.
Oui, j'ai appris sur les antennes de RFI vendredi la mort du Camerounais, l'international camerounais, Patrick Ekang, en Roumanie, sur le terrain, à l'âge de 26 ans. En effet, monsieur Juan, quelles sont les procédures mises en place, les procédures médicales, bien sûr, mises en place lors des malaises cardiaques? Et si, en utilisant ces procédures, Patrick Ekang aurait-il pu être sauvé?
Ah.
Ça, c'est ma première question.
Eh bien, ne raccrochez pas, on va déjà tenter d'y répondre avec Jean-Marc Sen. C'est la question que tout le monde se pose. Aurait-on pu sauver Patrick Ekang? C'est vrai que sa mort suscite de nombreuses questions, notamment sur la prise en charge du joueur juste après qu'il perde conscience.
Alors oui, effectivement, Juan. Cette situation, évidemment, lorsqu'on est sur un terrain de sport, est extrêmement aiguë et heureusement inhabituelle pour le médecin qui est présent. Mais c'est vrai que lorsque l'on a poser le diagnostic d'arrêt cardiovasculaire, là, une mesure d'urgence s'impose, c'est de mettre en place une réanimation cardio-respiratoire, hein, c'est-à-dire un massage cardiaque, plus évidemment une ventilation, c'est le fameux bouche à bouche. Ouais. Ça, c'est un élément qui est absolument essentiel et suivi souvent de ce qu'on appelle une défibrillation, tenter d'utiliser un défibrillateur. Effectivement, quand on a, comme on a pu le voir, une perte de connaissance aussi brutale que celle-ci, on imagine, il n'y a pas 100 000 choses, hein, c'est ou le cœur qui s'arrête, ou bien éventuellement l'origine est cérébrale. Ouais. Chez lui, c'était évidemment le cœur.
Je rappelle qu'il s'est écroulé sans aucun contact avec un autre joueur. Ouais. Ça faisait à peine 7 minutes qu'il était sur le terrain, donc ça a été brusque, brutal. Le parquet de Bucarest a quand même ouvert une enquête pour homicide involontaire pour déterminer les circonstances de son décès. Puisque des médecins et des supporters affirment qu'il n'a pas eu les premiers secours nécessaires, même sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce bouche-à-bouche dont vous parliez tout à l'heure, et même dans l'ambulance, on dit qu'il n'a pas eu de tentative de réanimation.
Alors, effectivement, on n'était pas dans l'ambulance. Ce qui est certain, c'est que pour effectuer un massage, ce qu'on appelle un massage cardiaque externe, on ne peut pas le faire lorsqu'une ambulance roule. Hein. Mmh. Donc ça, c'est une certitude, il faut être à l'arrêt, il faut être sur un sol dur pour pouvoir pratiquer ce genre d'exercice. Alors, ce qu'il faut voir, c'est évidemment, bien évidemment, c'est la discussion de la réanimation est là. Et peut-être il faut aussi se poser un petit peu plus avant et prendre un tout petit peu de recul sur cette problématique, puisque la question est, s'il a fait cet arrêt cardiaque, c'est qu'il avait une anomalie cardiaque. Mmh. Il avait une anomalie cardiaque qui donc n'a pas pu être dépistée au préalable par des bilans qui doivent être faits pour pouvoir autoriser un joueur à pratiquer du sport de haut niveau. Et donc là aussi, il faut s'interroger sur cet élément-là. Et puis enfin, il faut aussi dire que certaines, encore pour prendre un tout petit peu de recul, certaines anomalies cardiaques sont difficilement dépistables au préalable. Et là, il y a certainement un champ de recherche, notamment chez les joueurs africains. On sait qu'il y a des spécificités cardiaques chez les joueurs africains. Les cardiologues l'expliquent bien. Et là, il y a certainement un champ de recherche à oui. développer à ce sujet.
Alors, si je résume, en tout cas, la première partie de votre réponse, un massage cardiaque réalisé dans les 2 ou 3 minutes après l'accident aurait peut-être pu sauver Patrick Ekang.
Oh, certainement, c'est indispensable. Mmh. C'est même d'ailleurs une mesure qui doit être faite. On sait que chaque minute, chaque seconde compte. Hein. Il suffit de passer 3, 4, 5 minutes pour voir les chances de réanimation s'amoindrir considérablement.
Ouais. Alors, vous parliez de ces malformations cardiaques que l'on retrouve finalement chez certains joueurs africains. Boris a justement une question sur ce sujet. Boris ?
Oui. Faites-moi faisant écho de celle du Camerounais Marc Vinfoy-Mohan en 2003. Est-ce que les joueurs camerounais subissent des examens médicaux suffisants dans leur centre de formation d'origine?
Alors, c'est vrai que la mort de Patrick Ekang nous rappelle celle de son compatriote Marc Vivien Fouet en 2003 en France, au Stade Gerland à Lyon, lors d'une compétition en demi-finale de la Coupe des Confédérations. J'imagine que les joueurs camerounais, mais comme tous les joueurs, subissent des examens médicaux réguliers.
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est une obligation, et particulièrement en France, il y a un système que l'on appelle le suivi longitudinal obligatoire, c'est-à-dire que tout sportif professionnel ou sportif de haut niveau est obligé de subir une batterie d'examens et notamment des examens cardiovasculaires. Mmh. Alors effectivement, la première chose, c'est ces examens doivent être réalisés et généralement lorsque, et c'était le cas notamment du joueur qui est décédé en Roumanie, il est passé en France dans un club professionnel, on imagine que ce bilan a été réalisé. Mmh. Alors s'il a été bien réalisé et qu'il n'a rien montré, c'est peut-être justement qu'il y a des subtilités qui sont difficiles à avoir. Et ces subtilités, c'est vrai, ça c'est tout à fait décrit. En fait, la difficulté qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la personne meurt, il a une anomalie cardiaque, c'est-à-dire un cœur, ce qu'on appelle souvent une cardiomyopathie hypertrophique. Alors c'est un gros mot, c'est un cœur qui grossit un petit peu. Mais il faut savoir que lorsque l'on fait du sport, eh bien le cœur naturellement grossit. Et toute la subtilité est de savoir si ce cœur grossit normalement, physiologiquement, parce qu'on fait beaucoup de sport, ou il grossit de manière anormale parce qu'il existe une anomalie. Et là, cette fine subtilité, eh bien, nécessite encore, particulièrement chez les joueurs africains qui ont tendance à avoir un cœur très musclé, encore d'être affiné.
Merci beaucoup Jean-Marc Sen d'être passé dans le studio d'Appel sur l'actualité. Je rappelle que vous êtes médecin du sport et on vous retrouve dans un peu plus d'une heure, toujours sur l'antenne des RFI, aux côtés de Thomas Chauvineau dans le magazine Priorité Santé. Merci à vous Jean-Marc Sen et on remercie Boris. Désolé pour les autres auditeurs, on avait prévu d'autres questions ce matin, on a été un peu bavard, mais ne vous inquiétez pas, on vous rappellera demain car on sera de retour dès 8h10, temps universel. 33 9 693 693 70, c'est le numéro que vous devez composer si vous souhaitez réagir et commenter le climat politique au Gabon. On en parlera juste après le journal, dans 10 minutes.
Priorité santé.